De retour à Delirium Environnemental, le magazine d'information en environnement. Donc, on continue la revue de presse, la revue de l'actualité. Petite nouvelle inquiétante, ça faisait d'ailleurs la première page du Devoir la semaine passée. L'océan Arctique serait à l'agonie, mais voyons comment ça, Patrick.
Et c'est tout moi qui ai les nouvelles dures à dire aujourd'hui. Je suis tanné, désolé, je vais me motiver pour en faire une nouvelle joyeuse.
Ah, comment? Bonne
est-ce
chance.
Possible?
Non, pas vraiment. Mais écoutez, c'est simplement quelque chose d'assez troublant, je vous dirais. Monsieur Louis Fortier, qui est allé passer un an avec une expédition scientifique. Louis Fortier, c'est un professeur de biologie qui est attaché à l'Université Laval, a fait cette déclaration-là la semaine passée. C'était justement la Conférence mondiale des journalistes scientifiques. Et sa déclaration, c'est que d'ici 50 à 100 ans, l'océan Arctique n'existera tout simplement plus. Donc, vous vous souvenez qu'on a une petite calotte glaciaire au nord. Et ce qui arriverait, c'est qu'à la vitesse des changements climatiques, du réchauffement planétaire actuel, mais ce serait tout simplement remplacé par une mer qui joindrait l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Évidemment, il y a plusieurs questions qui... En fait, pire que ça, lui, il parle de 50 à 100 ans. Et si ça continue certaines années où on a des réchauffements comme les 4 ou 5 dernières années, eh bien, ça se pourrait que ce passage-là du nord-ouest, qu'on passait, si vous voulez, du Canada à la Russie, eh bien, ça s'ouvre d'ici 2030. Donc, les changements climatiques, c'est pas pour demain, c'est tout de suite, immédiatement devant nous. Évidemment, il y a un problème de géopolitique relié à tout ça parce que présentement, il y a une mer glacée. Et si la mer n'est plus glacée, ça devient des ressources halieutiques qu'il va falloir savoir à qui vont aller ces ressources-là, qui va avoir le contrôle de ces ressources-là. Ça, c'est vraiment pas clair. Évidemment, beaucoup de passages qui vont se faire parce qu'on pourrait couper en fait de 11 000 km le transit, par exemple, entre l'Europe et l'Asie. Donc, une nouvelle voie navigable avec les problèmes potentiels pour justement les Inuits, entre autres, qui habitent là-bas. Et en fait, une conséquence qui est probablement de cette fonte-là, de cette calotte glaciaire-là, si vous voulez, une conséquence assez catastrophique, je pourrais dire, là. C'est sur l'écosystème, évidemment, parce qu'entre autres, je vous mentionne des espèces que vous connaissez très bien, l'ours polaire, le phoque, et peut-être la morue ou même le morse. Ce sont des animaux qui vivent dans cet écosystème-là parce qu'il y a de la glace. Et là, évidemment, si ça fond, eh bien, ça va tout changer au niveau de la température de l'eau. Par exemple, la morue arctique ne pourra tout simplement plus habiter dans ce domaine-là parce qu'elle va disparaître. Même chose fera probablement pour l'ours polaire ou, par exemple, le morse qui devra plonger de plus en plus profondément. Présentement, il plonge, je crois, 50 à 100 mètres pour aller chercher sa nourriture et il pourrait se trouver à avoir à plonger jusqu'à 300 mètres. Donc, c'est relativement paniquant et je vous répète ce que M. Louis Fortier dit, il va falloir résoudre ces problèmes-là puis parce que sinon, c'est simplement les races de l'ours polaire, du morse et du phoque qui vont disparaître en moins d'un siècle.
Ouais, moins d'un siècle, encore une fois, c'est un peu le sujet du film The Day After Tomorrow. Je m'excuse encore parler de ça, mais vraiment, j'ai été troublée. Entre autres, impact, oui, les écosystèmes, mais également les courants marins avec l'apport d'eau non salée et également des glaciers et également, justement, au niveau de la température des courants, ça pourrait altérer beaucoup la température ailleurs autour de la planète. Merci beaucoup, Patrick Bonin, de nous en avoir parlé. Hugo Lachapelle, on enligne de plus en plus, on voit qu'on dénote un retour à l'approche légale en environnement, donc on a de plus en plus recours aux tribunaux. Et là, il y a une particularité. Tu nous parles de poursuites contre des compagnies par d'autres compagnies. Que se passe-t-il?
Ben oui, il y a une loi aux États-Unis qui s'appelle le Superfund Law, la loi des superfonds, et puis qui permet aux fonctionnaires de l'Agence de protection de l'environnement d'intenter des poursuites contre des compagnies pour leur faire défrayer les coûts de nettoyage de sites contaminés. OK? Et donc, la loi, elle s'applique tant aux propriétaires présents qu'aux anciens propriétaires d'un terrain contaminé, mais elle stipule que ça doit être fait, que l'action légale doit être faite par les fonctionnaires. Alors, le problème, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de sites potentiellement contaminés aux États-Unis, et puis l'agence traite, bien entendu, les plus importants en priorité, ce qui fait qu'il y a plusieurs causes qui prennent des années avant d'être mises sur la table. Et donc, il y a une compagnie d'aviation, Avial, j'imagine ça se dit comme ça, Avial Incorporé, a donc récemment intenté une poursuite contre l'ancien propriétaire de son terrain pour qu'il défraie une partie du nettoyage qui a été évalué à peu près 5 millions de dollars. Ça fait pas plaisir à personne de débourser ce genre de choses-là, donc on a le droit, on se doit de faire des poursuites judiciaires. Attendre en ligne pour que son dossier soit traité par le EPA, l'Agence de protection de l'environnement, c'est pas vraiment une option parce que finalement les dernières données relevées montrent que la contamination atteignait une rivière à proximité. Et donc si Avial gagne sa cause, ça pourrait marquer un précédent judiciaire puis permettre à beaucoup de compagnies de régler des litiges beaucoup plus rapidement, notamment au cœur des grandes villes où souvent les terrains sont plus petits et donc moins importants aux yeux du EPA. Alors c'est une bonne nouvelle pour certains. ça pourrait faire qu'on règle plus rapidement les problèmes, mais pour certains juristes, ainsi que pour la compagnie attaquée, vous pouvez imaginer, on croit que sans la surveillance d'un dossier par l'État, ben on peut pas vraiment s'assurer que le nettoyage soit bien fait. Donc, il marque aussi un point intéressant dans ce cas-là. Alors, vous voyez un peu toutes les implications que ça amène.
Absolument. Un dossier intéressant qu'on gardera à l'œil, bien entendu, parce que justement, la question de la responsabilité et de qui doit payer les coûts des négligences du passé, c'est une question absolument fondamentale en environnement. Quand on parle de payer les coûts du passé, des erreurs du passé, moi, je sais pas pourquoi la cloche du nucléaire me sonne en tête. Ça existe encore, ça, le nucléaire?
Ça existe bien que trop. Non, c'est un genre de nouvelle qui me tue complètement. Vous avez sans doute entendu parler la semaine dernière que des militants, entre autres de Greenpeace en France, attendaient de pied ferme un bateau états-unien qui devait arriver avec une cargaison de plutonium. Bien, bon, je vous parlerai pas de cet événement-là en particulier parce que, bon, tout a fini par arriver. Anyway, le bateau était fortement gardé et les manifestants ont été rapidement dispersés. Je veux juste vous expliquer un peu le dossier en tant que tel. Depuis 2000, pardon, les États-Unis et la Russie ont signé un accord pour éliminer une grande partie du plutonium qui leur servait militairement jadis. Donc, il y a 34 tonnes de plutonium à détruire. C'est pas rien. Et bon, c'était 140 kilos qui arrivaient en France la semaine dernière. Eh bien, ce projet-là, qui s'appelle MOX for Peace, eh bien, c'est le beau nom que nos amis États-Unis ont trouvé. Eh bien, ce qui consiste à faire, c'est de transformer le plutonium en MOX. C'est du Mixed Oxide Fuel, donc un mélange qui peut servir à alimenter les réacteurs nucléaires, donc des usines d'électricité nucléaire. Et ce que les États-Unis ont le culot de faire, c'est d'envoyer leur substance fortement radioactive dans un autre pays parce qu'eux autres, ils n'ont pas d'usine qui font le fameux MOX. Donc, ils envoient ça en France. Pendant que c'est dangereux, on laisse ça en France, mais aussitôt que ça peut avoir la moindre incidence en termes énergétiques, on le ramène chez nous. Donc, c'est faire la job sale par quelqu'un d'autre, faire en sorte que s'il y a un accident qui est arrivé, ça n'arrive pas chez soi. On est habitué à voir ça avec les États-Unis, de faire en sorte que les choses arrivent ailleurs que chez nous. Mais là, c'est complètement prendre un autre pays pour, dans le fond,
une poubelle.
Et carrément, on sait que le Canada, on est très bon là-dedans aussi. Donc, les États-Unis sont allés dire aux Français, dans le fond, transformez-nous notre plutonium, mais on va le reprendre aussitôt que ça va valoir quelque chose sur le plan énergétique. Et là, c'est 140 kilos qui a été transformé sur 34 tonnes. Alors, dites-vous que des déplacements de substances radioactives, là, ça ne fait que commencer.
Non, mais c'est absolument dangereux en termes de transport. Je veux dire, les risques qui sont liés au transport sont quand même très, très grands.
Et en plus, juste comme si c'était pas assez, on a le bateau qui arrive complètement dans le nord-ouest de la France et l'usine qui va transformer est complètement dans le sud-est de la France. Donc, ça va transiter au travers du pays complètement. C'est, bon, mon Dieu, c'est une folie états-unienne de plus.
Ou de moins, qu'est-ce que ça change? Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça, Nicolas Milo. Tu garderas le dossier à l'œil, on en est certain. Tu nous en reparleras au besoin. Au retour, les brèves petites vites. Le retour à Delirium environnemental, dernière partie de la revue de presse, revue de l'actualité, donc les brèves, les petites vites, cette semaine. Messieurs, lancez-vous.
Eh bien, le ministre de l'Environnement du Canada, eh bien, depuis qu'il a hérité de la voiture Toyota Prius de son prédécesseur, le ministre Anderson, eh bien, voit que c'est une bonne chose, les autos hybrides, et veut faire en sorte que le gouvernement instaure des mesures incitatives pour alléger, entre autres, les coûts que veut dire l'achat d'une nouvelle voiture hybride. Eh bien, M. Dion, on voit que plus vous rentrez dans le milieu, mieux c'est.
Aïe, y a-t-il quelqu'un qui me comprend? Y en a de l'action dans cette cabane-là? Eh bien, à Ottawa, je ne sais pas si vous le savez, mais à Ottawa, ils vont avoir pas probablement des véhicules, en fait des autobus hybrides. J'ai l'impression que personne m'entend.
Mais ça fait deux bonnes nouvelles en fil, messieurs. On est contents, ça va bien?
Eh bien, dans la ville de Rome cette semaine, on a un gros problème, en fait. Il y a tellement de pollution qu'on est obligé d'arrêter les véhicules. En fait, tous les véhicules au diesel, les véhicules sans convertisseur catalytique, et puis les véhicules les mopeds qu'on appelle, les cyclomoteurs, seront défendus dans le centre-ville. Imaginez-vous donc, qu'est-ce que ça va faire lorsque nous, on va commencer à avoir des problèmes de qualité de l'air de ce genre-là.
Ben moi, c'est pas une nouvelle. En fait, je vous invite à aller voir l'exposition au Musée d'art contemporain. C'est absolument passionnant. C'est M. Edward Bertensky, qui est un Torontois, qui expose ses photos qui sont, ma foi, magnifiques. Pourtant, il expose des choses d'une grande horreur. Il expose des sites d'enfouissement, oui, mais des mines à ciel ouvert, des dépotoirs de pneus, des dépotoirs de navires. Esthétiquement, c'est magnifique et c'est jusqu'au 8 octobre, du 8 octobre au 9 janvier, je m'excuse, au Musée d'art contemporain. Allez voir ça, c'est beau.
Eh bien, on en a évité une belle à Valleyfield la semaine dernière. Il y a un parc industriel où est-ce que plusieurs compagnies fabriquent des produits chimiques. Eh bien, la semaine dernière, un camion sortant du parc industriel s'est fait rentrer dedans par un train du CN. Oh. Le camion a revolé carrément dans le fleuve, dans le canal qui donne sur le canal de Beauharnois. Tout son contenu s'est retrouvé à l'eau.
Qu'est-ce que c'était?
C'était de l'alun, du sulfate d'aluminium. Heureusement, c'est un produit corrosif, mais qui se dissout aussitôt qu'il arrive dans l'eau et qui devient totalement inoffensif pour l'environnement. Là, ça vient dire, mon Dieu, vous pensez à ce que ça aurait été si on avait eu d'autres choses dans ce camion-là. C'est le deuxième en dedans de 6 mois des accidents de même qui arrivent dans ce coin-là.
Oh, faites attention, peut-être que leur plan d'urgence est mal adapté. Il n'y a pas que les plans d'urgence, il y a aussi les plans de prévention que je vous invite peut-être à mettre de l'avant. Prochaine petite brève, vite cette semaine.
Eh bien, nouveau projet pilote dans l'éco-quartier du Ville-Rosemont. On annonce qu'on va changer les bacs, les fameux bacs verts à recyclage, par des sacs de plastique. Imaginez-vous donc.
C'est
vraiment gênant comme projet.
Pourquoi? C'est quoi cette histoire-là?
Ben, l'idée, c'est qu'on s'aperçoit que dans certains quartiers où il y a des escaliers à l'extérieur des maisons, on nous dit que finalement, c'est pas très commode d'utiliser des bacs à recyclage et qu'on préfère l'usage de sacs de plastique. Mais finalement, les gens vont être obligés d'acheter des sacs de plastique. C'est une dépense de plus pour les ménages. Et en plus, c'est des sacs qui n'ont pas nécessairement servi à quelque chose parce que c'est des sacs particuliers qu'on veut.
Oui, non, c'est ridicule.
C'est déjà le cas dans mon cher arrondissement Verdun-Île-des-Sœurs.
Voyons donc, c'est une drôle d'idée.
Vous n'avez pas dit ça?
Hey, grosse nouvelle ici. En fait, ça vient d'arriver aujourd'hui même. En fait, mardi, Association québécoise de lutte à la pollution atmosphérique qui font une plainte directement contre Québec auprès de la Commission de coopération environnementale de l'ALENA. Si vous avez suivi les dernières émissions, peut-être que vous savez c'est quoi. C'est justement parce que Québec n'appliquerait pas ses propres règlements environnementaux, particulièrement en termes d'émissions polluantes des automobiles, entre autres parce qu'il n'y a pas de programme d'inspection obligatoire au Québec. Donc, Commission de coopération de l'ALENA, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Quand même un gros pouvoir sur ces trois pays que Canada et États-Unis.
Eh bien, on vous parlait la semaine dernière de sauver nos rivières, des projets de mini-centrales. Eh bien, les opposants à la mini-centrale sur la rivière Batican, qu'on vous parlait la semaine dernière, le conseil municipal de Saint-Écle, une belle petite municipalité toute rouge d'automne ces temps-ci, eh bien, a voté une motion s'opposant au projet. Le projet, entre autres, de barrage de 18 mètres de haut d'une capacité de 17 mégawatts. 18 mètres pour 17 mégawatts.
Quel drôle de
choix.
C'est
loser, hein?
Écoutez, on fait une évaluation des rivières à chaque année en Angleterre et cette année, comme dans la plupart des dernières années, quelques 95% des rivières étaient classifiées comme étant de bonne qualité. Mais en même temps, on annonçait qu'on est en train de prendre des nouvelles mesures, un nouveau barème d'évaluation pour les rivières. Et selon celui-ci, qui est basé sur des nouvelles connaissances scientifiques, il y a bien quelques 82% des rivières de l'Angleterre vont être maintenant considérées comme non, de pas bonne qualité, c'est-à-dire polluées.
Yeah.
Appel à tous les gestionnaires de villes. Regardez ce qui se passe du côté de la ville de Lévis. Ils ont décidé de changer leur feu de circulation. Donc, 1860 unités lumineuses qui vont être remplacées pour justement des unités qui sont moins énergivores. On parle d'économie annuelle de 51 000 $. Donc, soyez donc intelligents. Économisez l'énergie, changez vos feux de circulation. Bravo, Lévis.
Eh bien, une nouvelle qui me, mon Dieu, révolte en tant qu'amateur de la nature. La semaine dernière, Pierre Corbeil, qui est sous-ministre adjoint à Chevrolet à Fond-les-Pins.
Délégué aux forêts.
Eh bien, délégué aux forêts aussi, allait couper des rubans. Bref, dans le parc des Hautes-Gorges de la Malbaie, on vous rappelle que 19 millions ont été injectés depuis 2000 là-bas. Eh bien, là, il y a des nouveaux projets pour le parc de la Malbaie. On souhaite, entre autres, faire un barrage. Une mini-centrale là-bas pour fournir en énergie toutes les nouvelles installations qui ont été faites dans la rivière Malbaie. On parle d'une mini-centrale, on n'a pas voulu dire le modèle encore, mais en même temps, l'hydraulique, c'est ce qui est le plus intéressant par là-bas. Et le ministre a eu le culot de dire que ce qu'il trouvait beau dans les nouveaux aménagements, c'est qu'il donnait une dimension humaine au paysage.
Ah, c'est beau! C'est ce qui va compléter la revue de presse, la revue de l'actualité cette semaine à Delirium Environnemental. Patrick Bonin, Nicolas Milot ainsi que Hugo Lachapelle, merci beaucoup d'avoir lu pour nous les journaux de la planète. À nos auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez aller relire tout ça sur le site internet au www.radiodelirium.net.
Thank you.
De retour à Delirium environnemental, comme je vous le disais, le dossier de fond cette semaine, le dossier d'envergure, le dossier inquiétant de la semaine, c'est la question des pesticides. Plus tard, on espère recevoir M. Michel Gaudet, qui semble-t-il a un problème au niveau du transport. Je ne vous dirai pas quel type de transport il utilisait.
C'est l'automobile. Il y a des problèmes d'automobile.
Faut pas de mauvaise presse. Donc, si vous permettez, on entame tout de suite la question des pesticides. Il y a quand même quelques données qui sont possibles de présenter comme ça d'entrée de jeu, parce qu'il me semble absolument importante. D'abord, le prétexte pour recevoir M. Michel Gaudet. M. Michel Gaudet est président du conseil d'administration de la Coalition pour les alternatives aux pesticides du Québec, donc la CAP. Et puis, la CAP, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en décembre 1999 à partir d'un groupe de citoyens affectés de près ou de loin par l'usage des pesticides en milieu urbain, dans leur milieu, je m'excuse, dans tous les milieux. Et puis le prétexte qu'on avait, c'est que le 18 octobre prochain, en soirée, il y a une conférence qui va se tenir qui s'intitule « Les pesticides dans notre corps, un héritage toxique ». Une conférence donc sur la santé et l'environnement qui mettra en évidence les liens entre les polluants et nos problèmes de santé. D'abord, ce qu'il faut savoir des pesticides, c'est ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un pesticide, ou plutôt que sont les pesticides? Bien, les pesticides, c'est des biocides habituellement, c'est des substances chimiques qui ont été développées pour être à la fois toxiques, souvent bioaccumulables, souvent persistantes, qui sont des endocrino-perturbateurs, donc qui perturbent le système endocrinien pour la plupart, et qui sont souvent immunodépressives. Donc, ces substances-là sont utilisées dans les champs à grande échelle, mais pas seulement dans les champs. Et moi, j'ai été surprise d'apprendre ça. On utilise également les pesticides dans les peintures. Les peintures anti-moisissures qu'on met dans les salles de bain souvent contiennent des pesticides. On les utilise aussi parfois dans des produits nettoyants. Ils voyagent par les aliments, bien entendu, par l'eau, l'air, les sols. Donc, ils sont absolument partout. C'est un peu pour la mise en situation. Je trouve qu'il est intéressant de reparler de pesticides. On sait que on en parlait plutôt à l'émission. La semaine passée, le FAO, donc Food and Drug Administration aux États-Unis.
Food and Agriculture Organization.
Merci, aux États-Unis. Le PNU, l'OMS, le PNU, c'est le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, et l'OMS, l'Organisation Mondiale pour la Santé, lançait un cri d'alarme en parlant des contaminations sauvages aux pesticides sur 1 à 5 millions d'enfants partout autour de la planète. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça nous affecte ici également en milieu urbain. L'histoire de M. Gaudet est assez particulière. Il y a quelques années, en fait une dizaine d'années, sa famille au complet a été empoisonnée par les pesticides. Je ne peux pas vous donner les détails, par contre, il sera probablement là plus tard pour nous en parler. Quand on parle d'impact sur la santé, c'est important de réaliser de quelle ampleur et de quel type de problème est-ce qu'on parle. L'augmentation des causes de cancer est directement liée à l'utilisation des pesticides. On sait qu'il y a une explosion. Les pesticides, en fait, quand on parle de pesticides, il y a les pesticides de première génération. Depuis la nuit des temps, l'humain utilise, depuis qu'on fait de l'agriculture, on utilise des produits pour s'aider à pouvoir produire. Sauf que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est entré dans ce qu'on appelle la deuxième génération de pesticides. C'est-à-dire que là, c'est vraiment des pesticides qu'on appelle des produits de synthèse et qui ont des impacts clairs sur la santé. Les cancers, comme je vous le disais tout à l'heure, les cancers d'origine endocrinienne, donc les cancers qui attaquent habituellement les glandes, comme par exemple le cancer du sein, le cancer de la prostate, les leucémies chez les enfants sont liées aux pesticides, les troubles de l'apprentissage, les troubles au niveau de la fertilité. Ce que j'allais vous dire tout à l'heure, c'est que c'est tout à fait étonnant de savoir qu'en 1962, Mme Rachel Carson publie un livre qui s'appelle « Le printemps silencieux », où est-ce qu'elle démontre les impacts tout à fait clairs de l'utilisation du DDT sur les espèces et les espèces vivantes et les écosystèmes en général, particulièrement aux États-Unis. On utilisait à ce moment-là le DDT depuis déjà 20 ans. En fait, les choses qu'elle remarque et qui sont les plus flagrantes, c'est vraiment des changements au niveau des systèmes hormonaux et plus précisément sur les capacités de reproduction des espèces vivantes qui sont affectées. Donc, c'est absolument toutes les espèces vivantes qui sont affectées, de l'oiseau au poisson, les batraciens. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des troubles au niveau de la reproduction. Ces animaux-là sont plus capables de se reproduire. Ou certains vont se voir affligés des changements de sexe non désirés. Je vous explique. En présence de perturbateurs endocriniens, qui sont donc des xénohormones qui viennent envoyer le message à nos hormones comme si c'était des hormones féminines. C'est ce qu'on parle de ça. Quand on parle de féminisation de la nature, c'est ce dont on parle. Donc, que des mâles vont développer à l'intérieur de leur testicules vont développer des ovules, plutôt des ovules ou l'équivalent d'ovules. Donc là, on est dans des changements physiques.
Ah ouais.
Quand on parle, je vous en ai souvent parlé parce que c'est un problème, moi, qui me fait paniquer.
Est-ce que l'inverse peut aussi se produire?
Beaucoup moins. C'est vraiment la féminisation de la nature. Okay. Donc, c'est vraiment particulièrement les mâles de chacune des espèces qui vont être affectés. C'est quand on parle de goéland hermaphrodite ou encore d'ours polaire, on avait vu des études très troublantes sur le nombre d'hermaphrodites, d'animaux hermaphrodites dans le Grand Nord. C'est à cause de perturbateurs endocriniens, donc qui attaquent leur système endocrinien. Et les pesticides, plusieurs pesticides en sont, le DDT en était un. Je vous l'ai dit plus tôt dans l'émission, mais je vous le redis parce que je pense que c'est absolument important comme information. Le DDT, la demi-vie du DDT est de 100 ans. Donc, avant que la moitié du produit soit désagrégé dans l'environnement, ça prend 100 ans. Donc, on continue d'être empoisonné de ces produits-là. On s'est aperçu qu'en Europe, en 1999, il y a des études épidémiologiques qui ont été faites. On a étudié pas seulement les humains, on a étudié également les fruits et légumes de consommation courante. On s'est aperçu qu'environ 50 % des fruits et légumes frais qui étaient consommés dans toute l'Union européenne contenaient des résidus de pesticides provenant de produits multiples. La même année, on a retrouvé aux États-Unis des résidus de pesticides dans 60 % des fruits, 38 % des produits céréaliers et 29 % des légumes. Tout ça, j'ai tiré ça dans un livre magnifique qui date de 2003 et qui s'appelle Stop, que je vous recommande à tout le monde très fortement. Il ne parle pas seulement de pesticides, mais de tous les grands enjeux environnementaux qui affectent notre planète. Si vous permettez, on s'arrête tout de suite ici. Je pense que tout le monde a suffisamment mal au cœur. Au retour, si notre invité est là, on l'accueille avec plaisir. Autrement, on poursuit sur qu'en est-il des questions de responsabilité liées aux pesticides.